On va commencer. Donc, bonsoir à tous. Bienvenue à l'espace Mendès France. Aujourd'hui, dans le cadre de notre nouvelle exposition « Mise à jour, apprendre à l'ère du numérique », nous avons le plaisir d'accueillir Daniel Gaonac. Voilà, il est professeur émérite en psychologie cognitive à l'Université de Poitiers. Il a exercé également les fonctions de directeur au centre CERCA, donc le centre de recherche sur la cognition et les apprentissages. Et puis, il est l'auteur de nombreux livres. Je ne vais pas tous les énumérer, parce que je ne les sais pas tous déjà. Et donc, autour, bien sûr, de la psychologie cognitive, de l'apprentissage, notamment des langues étrangères, également des travaux sur la mémoire. Et donc, ce soir, il va nous parler de l'influence du numérique sur le fonctionnement de notre cerveau. Je suis sûre que vous avez tous plein de questions. Donc je vais lui laisser tout de suite la parole et puis après on échangera donc avec vous.
Merci pour cette invitation. On va commencer par ce que j'ai appelé une mise en bouche, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas tout à fait au programme, mais qui me permet de flécher de manière très, très directe les principales questions que je veux évoqué ce soir. C'est une recherche qui date de quelques années qui a fait beaucoup parler d'elle. Cette collègue américaine, Linda Henkel, a tenté d'étudier les conséquences du fait de photographier des objets dans les musées sur le souvenir de la visite d'un musée. Oh, j'imagine que vous pouvez facilement deviner à quel genre de problème cela correspond. C'est vrai que quand on regarde pas seulement les musées, mais les monuments, on voit beaucoup de gens systématiquement photographiés. Ça prend quand même rarement cette allure assez ahurissante d'une pièce du musée du Louvre, mais ça semble quand même être une pratique relativement fréquente. Alors, Linda Henkel a pris des étudiants. Vous savez que les enseignants de psychologie dans les universités utilisent souvent leurs propres étudiants comme cobayes. Elle leur a demandé d'aller visiter un petit musée dans la ville universitaire. Les a divisés en deux groupes qui ont fait la visite à des moments différents. Un groupe d'étudiants, elle a demandé simplement d'observer quelques objets. D'après la description qu'elle en a fait, c'est surtout des statues. D'observer quelques objets. À d'autres étudiants, un second groupe d'étudiants, elle leur a demandé de se promener dans le musée en photographiant certains de ces objets. Le lendemain, elle a testé ce qui restait comme souvenir de cette visite, avec les tests classiques utilisés par les psychologues, reconnaissance des objets parmi d'autres, dans l'ensemble de cet ensemble d'objets lesquels vous avez vus pendant la visite, description de certains objets ou d'une partie des objets. Elle a ainsi montré que la mémoire de ces objets était moins bonne pour les étudiants qui avaient photographié que pour les autres étudiants. Première interprétation qui vient à l'esprit, le fait de photographier est loin d'être une observation attentive des objets. On compte sur la photo pour se souvenir plus que sur la mémoire qu'on peut constituer en observant les objets. On reviendra sur cette question, vous pouvez imaginer, à propos d'Internet tout à l'heure. Est-ce que face à Internet, on se souvient de ce que l'on lit alors qu'on sait très bien qu'on peut le retrouver et très facilement avec les moteurs de recherche. Mais dans le même article, elle mentionne une seconde expérience avec des consignes un petit peu différentes, également de groupes d'étudiants, donc soit observants, soit photographiants. Mais pour ces étudiants à qui on demandait de photographier, elle leur a demandé de photographier seulement certaines parties des objets. Pour une statue, vous photographiez la tête, ou vous cherchez une partie de la statue particulièrement intéressante, etc. Et elle a montré qu'avec cette consigne, le souvenir des objets était cette fois meilleur pour les étudiants qui avaient photographié par rapport à ceux qui avaient simplement observé. Et elle note, c'est peut-être un élément particulièrement intéressant, et elle note que ce souvenir est meilleur pour les étudiants qui ont photographié, y compris pour les parties des objets qui n'ont pas été photographiées. C'est-à-dire que l'observation à travers une observation active, rechercher telle partie des objets, cadrer, photographier, conduit à une attention qui porte sur l'ensemble de l'objet et pas seulement sur la partie photographiée. Moi, ça m'a fait tout de suite penser d'ailleurs à quelque chose qu'on connaît bien sur les activités de prise de notes par les étudiants. Où on montre que prendre des notes de manière totale, verbatim, l'ensemble de ce que dit l'orateur, ce n'est pas du tout efficace, et que prendre des notes en sélectionnant des informations, c'est efficace, y compris pour les informations qui ne sont pas notées. Ça, c'est un phénomène qu'on connaît bien sur la prise de notes, c'est-à-dire la sélection des informations conduit à une attention qui porte sur l'ensemble des informations et qui structure bien l'ensemble. Alors, voilà une recherche alors, qui ne porte pas tout à fait sur le numérique, bien que ce phénomène, vraisemblablement, ait quand même quelque chose à voir avec le fait qu'un appareil de photo numérique conduit à davantage de prises de vue, ne serait-ce que pour des raisons économiques, que des appareils plus anciens. Ce n'est pas tout à fait du numérique, mais ça nous conduit quand même à noter qu'il y a des effets potentiels sur la mémoire, des effets potentiels sur l'attention, c'est donc ces deux thèmes que je vais ensuite développer, mais surtout, et ça, ça aurait pu être ma conclusion, donc c'est un peu un fil conducteur que je vous propose pour l'ensemble de la conférence, ça montre que la mémorisation finale, elle est plus liée à la tâche effectuée par les sujets de cette expérience qu'à l'outil lui-même. Ce n'est pas l'outil en lui-même qui détermine ce qui va être mémorisé, c'est ce qu'on en fait. J'ai envie de dire que c'est presque trivial de dire ça, c'est pas une découverte extraordinaire, mais ça mérite quand même peut-être d'être rappelé à chaque fois. L'outil en lui-même ne conduit pas nécessairement à des modifications majeures. L'outil, c'est quelque chose, comme son nom l'indique, qu'on utilise pour mener telle ou telle activité. Quelques préliminaires, et ensuite je traiterai donc de manière un petit peu systématique, d'une part les conséquences des outils numériques sur la mémorisation, d'autre part les conséquences des outils numériques sur l'attention. Ce que je vais présenter concerne très souvent des effets comportementaux, comme dans l'expérience que je viens de présenter, mais aussi quelques données, pas très nombreuses, sur des modifications potentielles du cerveau, ou du fonctionnement du cerveau. Entendons-nous bien sur ce qu'on entend par effet sur le cerveau, on n'est pas à l'échelle de l'évolution de l'espèce humaine. On ne peut pas imaginer que le numérique puisse changer quelque chose sur la structure du cerveau dans les années qui viennent. Il faut quand même rappeler que la langue écrite n'a pas encore, en tout cas, conduit à des modifications dans la structure du cerveau, alors que la langue orale, quelques centaines de milliers d'années, l'émergence de la langue orale est liée à une évolution de la structure du cerveau. Donc, ce qu'on observe quand on examine ce qui se passe dans le cerveau, ce sont des modifications transitoires qui peuvent avoir des conséquences à plus ou moins long terme, mais qui ne concernent pas du tout des phénomènes liés à l'évolution de l'espèce humaine. Je peux établir une analogie avec quelque chose qui est, je pense, déjà bien connu, les travaux de Stanislas Dehaene sur la lecture, puisque, contrairement au titre de son bouquin « Les neurones de la lecture », ce que montre Dehaene, c'est qu'il n'y a pas de neurones de la lecture. Les neurones qui sont actifs pendant l'activité de lecture sont des neurones qui, du point de vue de l'espèce, sont prévus pour autre chose. La perception des visages, la perception des objets. Et ce que montrent les travaux de Dehaene et d'autres, c'est qu'il y a une sorte de récupération de ces structures cérébrales pour quelque chose qui, au départ, n'est pas prévu. Et c'est à travers ce dispositif que sont analysées certaines difficultés de l'apprentissage de la lecture. Ces neurones ne sont pas prévus pour ça. C'est dans ces travaux de Dehaene qu'on peut saisir l'importance de ce qu'on appelle maintenant la plasticité cérébrale. C'est-à-dire un phénomène très général qu'on peut résumer de la façon suivante. Toute activité cognitive soutenue, prolongée, induit des modifications dans le fonctionnement du cerveau. Des modifications fonctionnelles, c'est-à-dire des connexions neuronales nouvelles qui s'établissent, des modifications structurales, c'est-à-dire que certaines synapses, certaines connexions sont facilitées à travers des modifications anatomiques. Cette plasticité cérébrale a été notamment bien démontrée à propos de la lecture, c'est-à-dire que on peut montrer d'une part que apprendre à lire nécessite un certain nombre de capacités cognitives, notamment dans ce qu'on appelle la mémoire de travail, la capacité à mémoriser quelques informations de manière transitoire. Mais on peut montrer aussi que le fait d'apprendre à lire a des conséquences sur le fonctionnement de la mémoire. Certaines fonctionnalités de la mémoire sont boostées en quelque sorte par le fait d'apprendre à lire. Il ne faut pas oublier aussi, et ça dans le bouquin de Stanislas Dehaene, on le voit très bien, que l'outil lui-même, en l'occurrence le langage écrit, a quelque chose à voir avec les contraintes du cerveau. L'exemple le plus caractéristique, c'est la manière dont on peut analyser les différences, la forme des lettres dans un certain nombre d'alphabets. On montre que ces formes des lettres ont quelque chose à voir avec, justement, la manière dont les structures corticales analysent les objets, pas seulement les lettres, mais l'ensemble des objets. Les contraintes du fonctionnement du cerveau ont des conséquences sur la manière dont l'outil, les lettres de l'alphabet, ont évolué dans l'histoire. Et donc on peut aussi imaginer, enfin on peut vraisemblablement observer, mais pour le coup je n'ai pas trouvé vraiment beaucoup de recherches dans le domaine, ça relèverait de l'ergonomie, que les outils numériques, ils évoluent aussi de manière cohérente avec le fonctionnement du cerveau. C'est bien l'objet de l'ergonomie, de ce qu'on appelle l'ergonomie cognitive, construire des objets, des outils, pardon, qui soient cohérents avec le fonctionnement du cerveau. Quand un concepteur de logiciel dit qu'il a fabriqué un outil avec une interface intuitive, c'est ça qu'il veut dire. Il veut dire que le logiciel qui va permettre de gérer l'interface avec l'utilisateur, eh bien, il est d'une certaine façon adapté au fonctionnement cognitif. Donc, cette plasticité cérébrale, ça fonctionne un peu dans les deux sens. L'outil façonne le cerveau a des implications sur l'outil. Tout ça, c'est donc un peu des préliminaires qui montrent qu'on va s'intéresser à la fois aux activités cognitives et aux traces du fonctionnement cortical avec une petite note à laquelle je tiens toujours beaucoup. Quand on regarde de jolies images du cerveau qui fonctionne avec du vert, du rouge, méfions-nous. Est-ce que quand on voit quelque chose du fonctionnement du cerveau, est-ce que c'est la cause de nos comportements ou est-ce que c'en est la conséquence ? Raisonner sur le cerveau comme déterminant les activités, les comportements des individus, ça présente un certain nombre de dangers quant à la manière dont on peut concevoir tout ça. Mais on verra des exemples de ce genre de problème dans la suite. Est-ce que le numérique a des conséquences sur le fonctionnement du cerveau ? On rencontre, en fait, surtout beaucoup de polémiques. Ce n'est pas à ces polémiques que je me suis intéressé. Mon travail de chercheur en psychologie cognitive me conduit plus à rechercher des données empiriques solides. Mais on rencontre beaucoup de ces dernières années d'écrits qui sont parfois un peu lyriques. Le numérique doit décupler nos capacités cérébrales. On n'a plus besoin de mémoriser, donc on peut créer. Quel que soit l'immense respect que j'ai pour Michel Serres, je trouve que dans son livre Petite Poussette, qui est par ailleurs très intéressant, il pousse un petit peu le bouchon un peu loin sur l'idée d'un nouvel humain qui apparaîtrait dans le cadre de cette émergence du numérique. Donc ça ne sera pas ce genre de choses que je développerai. Je serai aussi assez prudent sur certains écrits. Je pense par exemple à ceux de Nicolas Carr dans ce bouquin, qui sont assez pessimistes sur les conséquences du numérique concernant le fonctionnement du cerveau. Le titre américain d'ailleurs du bouquin de Nicolas Carr est intéressant. The Shallows, si j'ai bien compris, parce que c'est dans les dictionnaires, j'ai trouvé des choses assez variables, c'est les hauts fonds ou quelque chose comme ça. Son idée de base, c'est que le numérique conduit à des activités cognitives un peu superficielles. Ça ne sera pas non plus ce genre de choses que je souhaite développer. Je me suis inspiré, je ne vais pas systématiquement donner les références des articles que j'ai utilisés, mais je rends quand même un petit hommage aux deux auteurs, deux articles que j'ai particulièrement utilisés, qui sont des revues de la littérature sur la question. Une petite dernière remarque préliminaire. J'ai trouvé des travaux de deux types et je voudrais que vous fassiez attention à ça parce que ça a quelques conséquences sur la fiabilité des données qu'on peut évoquer. Il y a beaucoup de travaux, parce que c'est assez facile à faire, qui étudient des populations définies a priori, c'est-à-dire une population d'utilisateurs fréquents d'Internet, par exemple, et une population de gens qui n'ont pas l'habitude d'utiliser Internet. Et on compare les deux, y compris éventuellement on regarde le fonctionnement de leur cerveau. Et les autres recherches, qui sont beaucoup moins nombreuses parce que c'est plus compliqué à faire, ce sont des études expérimentales où on prend deux populations équivalentes. À l'une, on fait utiliser Internet, par exemple, voire on l'entraîne. On effectue des séances d'entraînement, y compris assez intenses, à l'utilisation d'un outil numérique, et l'autre pas. Et on compare l'évolution de ces deux populations. Le premier type de recherche, population définie a priori, a évidemment un inconvénient méthodologique majeur, c'est que ces populations, par définition, ne sont pas équivalentes. Et donc, si on trouve des différences, est-ce qu'elles sont dues à l'utilisation d'Internet, par exemple, ou l'utilisation d'un outil numérique, ou est-ce qu'elles sont dues à des déterminants qui font que cette population utilise majoritairement, fréquemment, Internet? C'est ce qu'on appelle des variables confondues. Et donc, il faut être très méfiant sur les conséquences, les résultats obtenus dans ce genre de recherche. L'embêtant, c'est que quand on trouve des différences, utilisation de l'outil numérique versus pas d'utilisation, c'est surtout ces recherches-là qui conduisent à trouver des différences. Donc on peut subodorer déjà un petit peu que quand il y a un effet de l'utilisation d'outils numériques, c'est peut-être parce que les gens qui utilisent les outils numériques ne sont pas les mêmes que ceux qui ne les utilisent pas. Ce qui conduit quand même à relativiser un certain nombre de choses. La mémoire. La recherche, très connue, je vois mon collègue du laboratoire sourire, parce que c'est la recherche qu'on cite toujours dans ces cas-là, sur l'éventualité, l'existence éventuelle d'un effet Google. Est-ce que le fait de savoir qu'une information est accessible à travers un outil, l'ordinateur, Internet, un moteur de recherche, est-ce que ce fait-là nuit à la mémorisation de cette information? Ces auteurs ont demandé à des sujets de rechercher des réponses à des questions. Donc on pose des questions, on met à disposition un outil pour rechercher des réponses à ces questions. Certains ont dit le fichier que vous utilisez pour trouver les informations sera ensuite supprimé. À d'autres, on dit le fichier sera conservé dans un dossier au sens informatique, hein, sur l'ordinateur. Donc tout ça visible sur un écran. On teste ensuite le souvenir du contenu de ces informations. Alors, soit on teste le contenu lui-même, est-ce que les gens se souviennent des réponses aux questions, des réponses qu'ils ont trouvées dans les fichiers. On teste aussi s'ils se souviennent de l'endroit où, en quelque sorte, ils pourraient retrouver ces informations. Donc, concrètement, le nom du dossier dans lequel les informations sont supposées se trouver. Ces auteurs ont ainsi montré que, dans le premier cas, quand on dit le fichier sera ensuite supprimé, la mémoire du contenu est moins bonne. Et ils montrent à l'inverse que, lorsqu'on dit que le fichier sera conservé dans un dossier, la mémoire de l'endroit de stockage est meilleur. Il y a donc un lien entre la nature de l'activité et la représentation que les sujets se font du devenir de l'information qu'ils ont utilisée. Plus exactement, et c'est pas tout à fait anodin, s'agissant de la mémoire de l'endroit de stockage, les sujets donc du deuxième type, hein, les sujets qui ont eu comme consigne le fichier sera conservé dans un dossier, ne se souviennent pas à tout coup de l'endroit exact, mais se souviennent au minimum du fait que l'information sera disponible ou non. C'est-à-dire qu'on a testé ça en donnant, par exemple, une liste d'informations. Est-ce que cette information, vous pensez pouvoir la retrouver ou pas? Donc, c'est une simple reconnaissance. Dans une liste, vous avez une liste d'informations. Lesquelles vous pensez pouvoir retrouver dans les dossiers qui ont été constitués? Et ça, la mémorisation pour les sujets du deuxième type, la mémorisation est parfaite. Donc, il y a quelque chose dans cette activité qui conduit les gens à avoir une sorte d'index. Ah, je sais que cette information, je pourrais la retrouver, ou bien à je sais que je ne pourrais pas la retrouver, ou je ne sais pas si je pourrais la retrouver, ce qui peut revenir à peu près au même. Alors voilà les premières images de cerveau, comme la conférence a quand même comme titre quelque chose qui concerne le cerveau, je vous ai quand même montré quelques images de cerveau. Ce résultat est tout à fait confirmé par une des rares études en IRM, imagerie cérébrale, cette étude a cherché à analyser ce qui se passe dans le cerveau pendant l'activité de recherche sur Internet. Donc, partant d'une question, on recherche une information et on sait que cette information, soit elle sera disponible ensuite, soit elle ne le sera pas. On compare ce qui se passe dans les deux cas. Et ce qu'on montrait chez ces chercheurs, c'est une différence entre les deux situations qui porte très précisément sur une fonction majeure du cerveau à propos de la perception. Lorsqu'on perçoit un objet, il y a deux activités cérébrales qui se distinguent par les circuits cérébraux qui sont activés. On a d'une part ce qu'on appelle la voie ventrale, ça veut dire que c'est des neurones qui sont activés à la base du cerveau. La voie ventrale est spécialisée dans le traitement du contenu des informations. C'est pour ça qu'on appelle cela en anglais la voie du what. La voie dorsale, donc un circuit cérébral qui passe par le dessus du cerveau, c'est la voie du where, qui porte sur les caractéristiques spatiales des objets, de manière générale. Et ce sont effectivement, c'est un des phénomènes majeurs concernant le fonctionnement de la perception, ce sont des voies clairement différenciées. Et ce que montrent ces auteurs, alors je vous ai mis des images de cerveau pour faire sérieux, mais sincèrement, c'est un peu trop technique pour aller dans les détails. Donc je vous demande de faire confiance à ces auteurs. Quand ils disent donc, c'est quand même un phénomène très, très important, qu'en fonction de la représentation qu'on a du devenir de l'information, disponible ou pas, notre cerveau ne fonctionne pas de la même façon. Okay. Voilà un résultat majeur qui est finalement un des rares qui répond directement à la question du titre de la conférence. Est-ce qu'il y a une modification dans le fonctionnement du cerveau? Alors, je dis bien dans le fonctionnement, en insistant encore sur le fait que ça ne conduit pas le cerveau des individus concernés à fonctionner de manière privilégiée d'un côté ou de l'autre. On a toutes les chances de penser que c'est un phénomène transitoire. On verra quand même quelques petites choses sur les phénomènes liés à l'entraînement. L'entraînement, justement, également en IRM, ces auteurs, vous voyez que les Chinois s'intéressent beaucoup à ce genre de problème. J'ai été frappé en regardant la littérature sur cette question de voir que énormément de recherches faites en Chine. 6 jours d'entraînement à l'utilisation d'Internet, avec une conséquence qui est différente de celle qu'on vient de voir, activation du cortex frontal. Les zones frontales sont les zones du cerveau qui ont joué un rôle particulièrement fort dans, disons, les processus de décision. Si on réfléchit à ce qui se passe quand on navigue dans Internet, il y a sans arrêt des tas de décisions à prendre. Est-ce que je clique sur ce mot qui est surligné, qui va me brancher sur une autre page? Je suis dans cette page, est-ce que je reviens à la page précédente? Est-ce que je... Ah, où j'en suis? on se perd souvent dans Internet. On a beaucoup plus qu'en lecture linéaire des décisions à prendre. Et ça aussi, ça a des conséquences. Alors, un enseignant doit imaginer que ça a des conséquences pédagogiques majeures, hein, le risque de se perdre en recherchant des informations. Du point de vue du fonctionnement cortical, ce qui est attesté, c'est que le cerveau qui traite des problèmes, qui gère l'environnement, qui s'adapte à l'environnement, ce cerveau est particulièrement sollicité pendant l'utilisation d'Internet. Un des auteurs auquel je me référais tout à l'heure, qui a fait une revue de questions sur tous ces problèmes, conclut pour sa part, si on cherche un petit peu à avoir une vision globale des choses, à des effets positifs. Moi, ce n'est pas tout à fait mon rôle de dire si l'utilisation d'outils numériques a globalement des effets positifs ou pas. J'essaie plutôt de cadrer les choses de manière assez objective. Si on regarde les choses du point de vue du fonctionnement de la mémoire, beaucoup de recherches, finalement, on peut les interpréter en disant que l'utilisation d'un outil comme Internet permet effectivement de libérer des ressources. Mémoriser un contenu, c'est plus coûteux que mémoriser l'endroit où se trouve son contenu. En général, peut-on penser. On peut peut-être trouver des exceptions. Et donc, on peut imaginer que ces outils doivent permettre de meilleures stratégies d'utilisation de l'information. Si je me réfère à la première recherche que j'ai mentionnée sur les conséquences de photographier les pièces dans un musée, l'outil en lui-même n'est pas forcément quelque chose de positif, mais en tout cas, on peut imaginer qu'il y ait des utilisations de cet outil qui conduisent à de meilleures stratégies d'utilisation de l'information. Avec quand même une nuance, je n'ai trouvé qu'une seule recherche là-dessus, mais elle me paraît suffisamment importante pour y insister. Ces deux auteurs ont montré que la recherche et l'utilisation d'informations via Internet avaient quelques conséquences au niveau de ce qu'on appelle la métacognition, c'est-à-dire l'évaluation qu'on peut faire de ses propres apprentissages. Une conséquence majeure, c'est que quand on recherche des informations, quand on utilise des informations via, par exemple, un moteur de recherche, on a beaucoup plus rapidement le sentiment de maîtriser les informations qu'on a recherchées. Beaucoup plus rapidement, le sentiment d'avoir mémorisé correctement. C'est une question majeure. Il y a beaucoup de travaux là-dessus sur les enfants, les adolescents. Comment déterminer, dans une situation d'apprentissage, comment déterminer le moment où on peut considérer que cet apprentissage est suffisant? On sait que chez les enfants, c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident. C'est un des problèmes majeurs du développement de la métacognition. Ces auteurs montrent que l'utilisation d'un outil de recherche peut poser quelques problèmes en ce sens que ce sentiment de savoir, finalement, apparaît plus tôt. Il est peut-être lié à la vitesse de récupération des informations. C'est vrai qu'avec un bon moteur de recherche, il y a des tas d'informations qui apparaissent rapidement. Et le fait de les avoir trouvées a comme conséquence un sentiment de les connaître, de les maîtriser. Encore une fois, c'est la seule recherche que j'ai trouvée là-dessus. Moi, ça me paraît être une thématique de recherche peut-être utile à approfondir. Je vais passer aussi un peu de temps sur la seconde thématique que je voulais présenter ce soir, le fonctionnement de l'attention. Finalement, c'est peut-être encore plus important si on revient à la première recherche sur la photographie dans les musées. L'effet sur la mémoire, hein, négatif, positif, il est lié finalement à la manière dont chaque étudiant dans cette expérience gérait son attention en face des pièces du musée, en fonction de la consigne qui avait été donnée, simplement photographier ou photographier une partie déterminée à l'avance des objets. La gestion de son attention présente des aspects extrêmement différents. Beaucoup de recherches sur les conséquences attentionnelles du numérique portent sur l'utilisation du smartphone, plus que sur l'utilisation des ordinateurs ou d'Internet, avec ce qu'on appelle le multitasking, c'est-à-dire le fait que l'utilisation d'un smartphone tend à nous faire passer extrêmement rapidement d'une activité à une autre, nous conduit à être sollicités à travers des notifications ou à travers des recherches, à être sollicités par une tâche nouvelle. Et donc ce qui a été étudié, alors très souvent en prenant des populations a priori, utilisateurs fréquents versus utilisateurs peu habitués, quelles conséquences au niveau de l'attention en termes de comportement, capacité à maintenir l'attention, etc., ou au niveau du fonctionnement cortical. Un résultat majeur qui recouvre un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure à propos d'Internet, c'est l'activation de nombreuses zones corticales, plus nombreuses que dans des activités qui n'utilisent pas des outils numériques. Ce qu'on peut comprendre à travers le fait que l'utilisation d'un smartphone, c'est certes des images, c'est des décisions, c'est des appuis tactiles, c'est aussi beaucoup d'écrits. Si on y réfléchit bien, la fracture numérique, c'est peut-être surtout une fracture quant au poids qu'a l'écrit dans le numérique. Et un écrit qu'il faut traiter très rapidement, qu'il faut traiter en articulation avec des décisions, avec des successions d'informations. Il est vraisemblable que une des difficultés majeures dans l'utilisation fluide, efficace de ces outils, c'est en fait des difficultés aussi de traitement, ou de traitement un petit peu différent des traitements habituels de l'écrit. Pour paraphraser Umberto Eco, on pourrait dire que on est loin. C'est pas demain qu'on va se passer de l'écrit, qu'on va se passer des livres, disait-il. Des conséquences importantes sur l'attention flexible, c'est-à-dire la capacité à passer d'une tâche à une autre. Les utilisateurs fréquents d'un smartphone sont des gens qui passent très facilement d'une tâche à une autre. La difficulté de parler d'attention, c'est que, en fait, le terme attention recouvre des choses extrêmement différentes. Et dans cet exemple des effets du multitasking, il faut insister sur le fait que l'attention flexible, ce n'est pas l'attention maintenue. C'est-à-dire que les mêmes personnes ont par contre quelques difficultés à maintenir l'attention de manière constante sur une même tâche. Donc, conséquences positives, conséquences négatives. Et là aussi, ça correspond à ce qu'on a vu tout à l'heure à propos d'Internet, une activation importante des zones, frontales dont je parlais tout à l'heure, qui jouent un rôle dans les processus de décision. On peut insister sur le fait que ces conséquences sur l'attention, on peut en démontrer l'existence, pas seulement quand on utilise son smartphone, mais aussi y compris quand on a son smartphone posé à côté de soi. Y compris dans les recherches de Thornton, j'ai trouvé ça, y compris si le smartphone est posé à l'envers. Enfin, c'est un détail, mais un détail quand même significatif des conséquences de cet outil. La simple présence d'un outil susceptible d'attirer votre attention a des conséquences sur le fonctionnement de l'attention. J'aurais envie de dire, parce que je suis un farouche adversaire de l'utilisation des téléphones en voiture, qu'il faudrait interdire en voiture non seulement l'utilisation des téléphones, mais la simple présence d'un téléphone. C'est pas seulement l'histoire des oreillettes qui est en jeu. Là, c'est pas un jeu, justement. La présence à côté de soi d'un smartphone, c'est-à-dire d'un outil qui est susceptible de déclencher quelque chose qui va attirer l'attention. Il y a plusieurs recherches là-dessus, je vous en ai cité deux. C'est un élément qui me paraît a priori un peu troublant, mais extrêmement, extrêmement important. Une étude du IRM sur Internet chez les seniors. Alors, on est toujours sur les processus d'attention, vous allez voir. C'est une des rares études qui semble montrer des effets un petit peu à long terme sur le fonctionnement du cerveau. Alors, on va regarder des belles images comme ça. Ces auteurs, je recherche mes notes pour donner des indications techniquement précises, ont travaillé sur des personnes entre 55 ans et 76. Donc, on recueillit des images IRM. Alors, à nouveau, en comparant des personnes habituées à l'utilisation d'Internet et des sujets naïfs qui ne connaissaient pas bien Internet. Ils ont comparé pour ces deux populations deux tâches différentes. D'une part, rechercher des informations sur Internet. D'autre part, simplement lire des informations sur un écran. Donc des informations déjà prêtes sur un écran. Et ils ont recueilli le fonctionnement du cerveau dans ces deux situations. Donc, vous avez ce qu'on observe pour les sujets naïfs, ce qu'on observe pour les sujets habitués, ce qu'on observe en simple lecture et ce qu'on observe dans la recherche sur Internet. Méfions-nous des images de cerveau, c'est extrêmement simplifié. Il faut toujours avoir en tête la somme de calculs statistiques qu'il y a derrière ce genre d'image. Donc je vous les présente parce que cette étude m'a paru suffisamment sérieuse, suffisamment claire quant aux conditions de passation, etc. Les choses sont loin d'être aussi simples et aussi claires quand on regarde la littérature sur le fonctionnement du cerveau. C'est pas que je sois contre les neurosciences, je demande simplement qu'on relativise ces données. On observe ici, alors d'abord quelque chose, c'est qu'il n'y a pas énormément de différence entre lecture et Internet. Il y a des zones qui sont liées au langage, qui sont liées au traitement perceptif visuel, puisqu'il s'agit de lecture. Il y a une différence importante, et je crois que c'est la troisième fois que j'insiste là-dessus, c'est au niveau du lobe frontal. Donc si vous prenez l'image en bas à droite, Internet chez les sujets habituels, vous voyez à l'avant du cerveau, c'est à gauche l'avant là, vous voyez à l'avant du cerveau une zone qui n'est activée que dans cette situation. Donc là aussi, je me répète, une conséquence majeure de l'utilisation d'Internet, c'est une sollicitation beaucoup plus importante des processus de contrôle des activités, des processus de décision. Ça m'a rappelé quelque chose qui est tout à fait hors sujet, mais par analogie, j'ai trouvé ça intéressant. C'est des recherches il y a quelques années qui montraient curieusement une activation importante de ces zones frontales chez les dyslexiques. Pourquoi chez les dyslexiques ? A priori, les dyslexiques, handicap, on pourrait penser que tout fonctionne un petit peu moins bien. Je caricature volontairement, ce n'est pas du tout ça. Or, les processus de contrôle, de décision, sont toujours plus importants pas chez tous les dyslexiques, mais chez beaucoup. Pourquoi ? Parce que la lecture pour les dyslexiques est beaucoup plus dure, beaucoup plus difficile, beaucoup plus contraignante, du fait que certains automatismes ne sont pas, les automatismes de décodage, ne sont pas bien installés. Et du coup, cette absence d'automatisme a des conséquences, c'est une exigence de contrôle de l'activité beaucoup plus importante. C'est très fatigant d'être dyslexique. Très fatigant. Il faudrait que tous les profs en soient bien conscients. Internet aussi, c'est plus fatigant, j'ai envie de dire. Ça peut être des avantages, ça peut sans doute conduire à trouver des tas d'informations utiles. Ça sollicite des zones du cerveau qui peuvent être beaucoup plus tranquilles dans une lecture linéaire. Et pour terminer, va être temps, beaucoup de recherches. Alors je me suis demandé pourquoi beaucoup de chercheurs s'intéressaient à ça. Beaucoup de recherches sur l'utilisation des jeux vidéo. Et je place ça dans la rubrique effets sur l'attention, parce que les effets majeurs qu'on trouve, c'est effectivement des effets sur l'attention. Je vous ai cité une recherche que j'ai trouvée extrêmement utile, c'est ce qu'on appelle une méta-analyse, c'est-à-dire une recherche qui fusionne un grand nombre de données, donc c'est quelque chose d'assez solide. On trouve de manière extrêmement générale des effets positifs sur des capacités attentionnelles, des capacités visuo-spatiales. Je vous donne un exemple de capacité ainsi étudiée, repérage d'un stimulus déterminé à l'avance dans un ensemble d'éléments. Donc là aussi, méfions-nous, l'attention c'est quelque chose de vaste, de compliqué. Les capacités attentionnelles, là, c'est des capacités assez particulières. C'est la capacité à repérer que quelque chose se passe, par exemple, dans un coin de l'écran qu'il va falloir gérer, etc. Mais les conséquences sont attestées. Les utilisateurs fréquents. Ça ne marche pas pour tous les jeux. Et j'ai trouvé une autre recherche qui m'a laissé personnellement assez de marbre parce que je ne connais absolument pas ces jeux, mais j'imagine que dans l'assistance, il y aura peut-être quelques-uns à qui ça dira quelque chose. Ce chercheur a étudié les conséquences, non pas en général des jeux, mais de certains jeux qu'il a tenté de caractériser en fonction des contraintes cognitives de chaque jeu. Donc certains jeux, de son point de vue, devraient conduire à favoriser la mémoire de travail, à entraîner la mémoire de travail, d'autres le raisonnement spatial, la capacité à repérer l'emplacement relatif d'objets, des choses comme ça, l'attention divisée, faire attention à deux informations simultanées à deux endroits différents de l'écran, parce que les deux peuvent être utiles. Et le traitement perceptif, c'est-à-dire la rapidité de réaction lorsque apparaît quelque chose dans l'environnement, etc. L'intérêt de cette recherche, c'est de montrer que tous les jeux n'ont pas les mêmes conséquences. Donc il y a effectivement des caractéristiques qu'on peut qualifier de manière précise sur certains jeux. Les principaux effets qui sont attestés, c'est sur l'attention, capacité d'attention divisée au flexible. Donc là encore, ça ne veut pas dire que l'attention maintenue soit meilleure. Aux enseignants d'en tirer les conséquences qu'ils veulent, mais je pense que ça a quelques conséquences. Alors ça concerne la capacité à coordonner différentes informations, hein. Ça concerne la capacité à modifier son attention en fonction des contraintes de la tâche, et de manière très très forte dans beaucoup de jeux, la capacité à manipuler l'information visuelle. Ces recherches, donc là je parle aussi bien de l'ensemble traité par Bédiou dans sa méta-analyse que les recherches de Bannicoued, ces recherches incluent soit des populations différentes, hein, rappelez-vous ce que je vous ai dit sur les deux types de méthodologies, soit des populations différentes, soit aussi des séances d'entraînement. Et là, il y a un résultat qui me paraît particulièrement utile de mentionner. Donc, dans la recherche de Bannicoued, par exemple, on a des séances d'entraînement. Bon, il y a des individus qu'on n'a pas besoin d'entraîner à l'utilisation des jeux, mais on peut aussi prendre des individus encore peu habitués et les faire s'entraîner de manière systématique. L'entraînement a des conséquences. Donc, si je reprends les conséquences, notamment en termes d'attention, traitement perceptif, etc., on peut attester qu'un entraînement de 15 heures dans l'exemple de Bannicoued a effectivement des conséquences. Mais ce qu'il montre aussi, c'est que les conséquences positives du point de vue de l'attention, elles sont clairement attestées pour le jeu qui a servi d'entraînement, mais pas du tout, ou très peu, pour d'autres jeux. On rencontre là un problème majeur que les psychologues cognitivistes connaissent bien. C'est les problèmes qui sont liés de manière générale, de manière très générale, à ce qu'on appelle les entraînements cognitifs. Vous savez, sur votre smartphone, les trucs du docteur machin truc, le japonais dont j'ai oublié le nom, Kumazaki ou quelque chose comme ça, je ne sais plus quoi, oui. Qui vous vendent, pour le coup, des applications susceptibles de conduire à entraîner votre fonctionnement cognitif. Ça marche très bien, tant qu'on reste dans les tâches qui sont concernées par ces entraînements. Il n'y a quasiment aucune recherche, je dis bien aucune, quasiment, quand je dis quasiment, c'est que je pense qu'il y en a une. Aucune recherche qui démontre que ces entraînements aient des conséquences à terme et générales sur le fonctionnement cognitif. Et ce, pour une raison assez fondamentale. Ces entraînements, l'exemple du japonais que je citais là est tout à fait caractéristique, ces entraînements portent sur des tâches très particulières. Une des tâches classique dans ces applications, c'est ce qu'on appelle en psychologie cognitive la tâche de Stroop. Vous savez, des mots écrits en couleur, il faut désigner la couleur de l'encre en essayant de ne pas tenir compte du mot de couleur écrit. Le Stroop, c'est une tâche qui commence à être bien connue, mais qui n'est pas du tout évident. Évidente quand on la met en œuvre, hein. C'est-à-dire qu'on peut, même si on l'a fait plusieurs fois, il faut vraiment un gros entraînement pour arriver à inhiber, c'est un problème d'inhibition, à inhiber la lecture du mot de couleur. Alors, je prends cet exemple parce que c'est un exemple tout à fait caractéristique où, si on fait faire à des gens un entraînement systématique à cette tâche, il y a effectivement une amélioration très forte, très relativement rapide et très importante. Et l'utilisateur de l'appli se dit « Ah, bah oui, ça marche. » Manque de peau, si on fait faire d'autres tâches qui relèvent également de l'attention, qui relèvent également du contrôle, qui relèvent également de l'inhibition, puisque dans l'exemple du Stroop, c'est de l'inhibition, quelque chose qu'il ne faut pas traiter. Mais si on passe à d'autres tâches qui portent sur un autre matériel, ça ne marche absolument pas. Et on rencontre ici le même type de phénomène qui signifie que les entraînements cognitifs ne sont jamais indépendants des contenus sur lesquels on s'entraîne. Ce qui m'amène à une conclusion qui rejoint tout à fait l'introduction à partir des photographies dans les musées. S'il y a des problèmes à traiter à propos du numérique, ce n'est pas ceux de l'outil. L'outil n'est que ce qu'on en fait. La question, c'est est-ce que cet outil peut servir à déterminer des tâches qui correspondent à des objectifs, alors qu'ils soient pédagogiques, puisque la conférence est dans le cadre d'une exposition sur le numérique pédagogique, mais la vraie question, c'est ce que font les gens qui se servent de l'outil. Les étudiants qui photographiaient dans le musée, photographiaient en passant d'un objet à un autre, comme le font beaucoup de touristes chinois, ça ne se conduit pas à grand-chose. Photographier pour sélectionner une partie de l'objet, c'est quelque chose d'extrêmement efficace. Ça reviendrait à dire, si on se place dans une situation pédagogique, que les vraies questions, c'est toujours des questions didactiques et pas des questions d'outils numériques. Je vais essayer de conclure là-dessus. On peut discuter.
Merci beaucoup. Voilà, je pense qu'on a appris plein de choses et on peut prolonger. Donc, si vous avez des questions, je pense que M. Gaonac est prêt à vous écouter et y répondre. C'est assez vaste. Je sais pas, il y a un public d'étudiants, il y a un public. Une première question, merci.
Bonsoir. On commence à entendre beaucoup de commentaires sur le fait qu'il ne faut pas forcément donner d'outils numériques, tablettes ou smartphones aux enfants, enfin aux petits-enfants. J'ai entendu avant 3 ans. Est-ce qu'il y a des études sur ce sujet-là et quelles sont les conséquences de l'utilisation de ces outils pour ces enfants?
Je vais répondre, c'est pas ma spécialité, hein, donc je vais répondre prudemment. J'aurais dû dire en introduction que je préférais éviter de traiter ce genre de questions parce que ce n'est pas tout à fait dans mes compétences, mais allons-y quand même. Alors, je vais étendre un petit peu en disant que, de manière générale, il faut sans doute être sensible à ce qui se passe du point de vue du développement cognitif et pas seulement dans l'enfance. L'adolescence est une période extrêmement sensible, notamment du point de vue de l'évolution de l'attention ou de manière générale de ce qu'on appelle le contrôle cognitif. Pour une raison biologique, c'est que le cerveau continue à évoluer. Et ce, jusqu'à l'âge, alors je ne sais plus quand s'arrête l'adolescence, on ne sait plus très bien, mais enfin, ça peut être jusqu'à la vingtaine. Et notamment les zones frontales que j'ai évoquées à plusieurs reprises. En psychologie cognitive, ça correspond à ce qu'on appelle les fonctions exécutives, les fonctions qui permettent de contrôler les activités. Donc, ce que j'ai mentionné sur les conséquences du point de vue des processus d'attention, il faudrait peut-être y faire un petit peu attention s'agissant des adolescents. Ce n'est pas du tout anodin. Ça ne veut pas dire qu'il faut interdire les jeux vidéo chez les ados. Enfin, de toute façon, ça me paraît très peu plausible d'aller vers ça, mais en tout cas, l'utilisation massive de jeux vidéo, c'est quelque chose qui n'est pas du tout anodin. Alors, s'agissant des petits-enfants, où là, c'est encore moins mon domaine, il y y a effectivement des travaux, je pense, qui ne relèvent pas d'ailleurs uniquement de la psychologie cognitive. Je pense notamment aux travaux de Serge Tisseron sur l'utilisation des écrans de manière générale et pas seulement de l'outil numérique. Là aussi, chez les jeunes enfants, les processus d'attention, c'est quelque chose qui se met en place. Mais, vous voyez ce que j'ai dit à un moment sur la plasticité corticale, de manière générale. Il faut quand même être conscient que toute activité cognitive a des conséquences sur le fonctionnement du cerveau. La lecture a des conséquences sur le fonctionnement du cerveau. Alors qu'un outil qui émerge maintenant ait des conséquences sur ce qui va se passer dans le cerveau d'un enfant de 3 ans, a priori, je ne vois pas en quoi c'est forcément gênant. Sinon, peut-être, lorsque cette utilisation devient massive. Là, l'enjeu, ce n'est pas tellement la conséquence que cette activité va avoir, que la conséquence que l'absence d'autres activités peut avoir. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, effectivement, on a un vrai problème. Mais à la limite, le raisonnement vaut pour toute activité. Un enfant qui ne ferait que du violoncelle, ça poserait problème aussi. Et de manière très générale, sur ces questions, essayons de rester calme, j'ai envie de dire. Posons les problèmes. Celui sur les ados, personnellement, me paraît encore plus important que celui sur les enfants. Posons les problèmes, mais restons calmes.
Une autre question.
Bonjour, merci pour votre présentation. Je m'étais renseigné sur ce sujet il y a quelques mois, et il en ressortait qu'avant l'ère du numérique, on mémorisait largement mieux du fait de la pollution numérique qui était moins importante, de l'attention qui était supérieure, etc. Et donc ça, c'était en fait assez général. Et aujourd'hui, vous avez présenté le numérique comme un outil. Et moi, je me posais plus la question du numérique comme un environnement. Quand je pense au numérique, je pense au Wi-Fi, à la 4G, à toutes les ondes invisibles qu'on ne voit pas. La question, c'était, est-ce que il y a des études qui étudient l'influence de ces ondes sur la mémorisation, ou est-ce que je suis en train de faire peur à tout le monde avec cette question? Je ne sais pas si vous avez des réponses.
Là, je comprends tout à fait votre question. Là, vous sortez clairement de mon domaine de compétence. Je ne sais pas si je réponds. Mon sentiment, mais là je réponds plus en tant que citoyen qu'en tant que chercheur, parce qu'en tant que chercheur je ne suis pas compétent. Là aussi mon sentiment, c'est qu'il faut peut-être quand même pas trop s'affoler rapidement. En tout cas, dans mon domaine, donc le fonctionnement cognitif, okay, je n'ai pas trouvé grand-chose qui conduise à ça. J'ai le souvenir d'une étude faite, je pense, à Barcelone, qui montrait des conséquences potentielles sur, je crois, la mémoire chez des enfants scolarisés à proximité d'une antenne téléphone. Il y avait effectivement quelques effets assez faibles, si mon souvenir est exact. Je suis assez méfiant sur ce genre d'études. Je ne suis pas convaincu qu'au plan méthodologique, ça soit toujours extrêmement fiable. Donc, moi, je ne veux pas rejeter l'existence de tels effets. Je n'ai pas actuellement de connaissances. Je me tourne vers mon collègue du laboratoire au cas où il en connaîtrait, lui. Je n'ai pas connaissance d'études qui attestent vraiment ce genre d'effet. C'est tout ce que je peux dire.
Pas la patate chaude. Peut-être dans l'assistance, les gens qui ont des compétences plus en physique non plus. Donc, une autre question sur le champ de la psychologie cognitive. Ah, j'en ai deux en même temps.
Ouais, je l'ai pris alors. J'avais une question concernant, dans le laboratoire de recherche auquel vous êtes rattaché, quels sont vos sujets de recherche, justement, dans le sujet qu'on a évoqué ce soir ?
Là, pour le coup, je préférerais que mon collègue réponde, parce que moi, je suis à la retraite depuis quelques années, donc je ne connais pas forcément bien. Allez, Thierry, à toi.
Globalement...
Il y a d'autres conférences qui concernent directement, là, pour le coup, c'est pour ça que je n'ai pas du tout évoqué les travaux du laboratoire, il y a d'autres conférences qui concernent des travaux du laboratoire.
Oui, effectivement, donc le CERCA, on a plusieurs travaux sur le numérique. Le numérique dans l'écrit, le rôle des outils numériques, mais ça j'interviendrai dans 3 semaines, j'ai une conférence sur l'écriture et les outils numériques. On travaille aussi sur les apports que peuvent avoir les applications logicielles ou sur tablette, par exemple pour la dyslexie, vous avez probablement entendu parler du logiciel DISAP qui est fait au CERCA. Il y a des travaux sur la lecture aussi, ce qu'on appelle la lecture fonctionnelle, la recherche sur internet. On a des travaux plus généraux d'ergonomie cognitive. C'est pas un des axes principaux du laboratoire, mais je dirais de manière transversale, comme tous les chercheurs, on est tous venus, comme tout le monde, à se poser la question, et donc on a quasiment tous quelques travaux qui touchent à la question du numérique.
Depuis longtemps, j'insiste là-dessus, puisque j'étais encore directeur du laboratoire à l'époque, je pense en particulier aux travaux de Jean-François Rouet sur la navigation Internet, ou de manière générale la recherche Internet. C'est-à-dire que ce que j'ai évoqué là en termes attentionnels sur les processus de décision, on en voit tout à fait les effets dans les recherches de Rouet par exemple, sur le type de... quand il analyse le type de difficultés finalement qui sont induites par les caractéristiques de l'outil. Donc l'enjeu n'est pas du tout de dire cet outil est merveilleux, ni de dire cet outil pose des tas de problèmes. L'enjeu est d'analyser objectivement les avantages et les inconvénients, c'est-à-dire les conséquences potentiellement négatives de l'outil sur le fonctionnement cognitif et en l'occurrence sur les apprentissages.
Peut-être d'autres axes que j'avais oubliés pour ne pas vexer mes collègues aussi, qui ne sont pas là, mais si jamais que j'aurais oublié. On a aussi beaucoup de travaux qui sont sur la communication médiée par ordinateur. L'interaction homme-machine, l'interaction homme-homme via une machine. Donc la question de la place du numérique, de l'ordinateur, des outils de dialogue aussi en termes de communication. On fait des recherches fondamentales à la fois sur les processus de base, le fonctionnement de l'attention, de la mémoire, mais aussi des recherches de ce type-là. Comment est-ce qu'on interagit, comment est-ce qu'on communique avec certaines machines ? Je dis sans large machine ou artefact, on utilise souvent le terme d'artefact, mais voilà, un ordinateur, un répondeur orange ou un répondeur free quand il faut appuyer sur les boutons, toutes ces choses-là aussi.
Merci. Donc effectivement, je vous renvoie à consulter le programme avec les nombreuses animations et conférences qui sont prévues. Je reviens vers vous.
Merci. J'avais une question sur l'usage du numérique pour l'apprentissage. Dans le fait de, est-ce qu'on n'a pas un meilleur apprentissage finalement grâce au numérique en permettant à un élève de faire lui-même les recherches, c'est-à-dire lui confier une tâche qu'il va, grâce à l'outil numérique, exécuter lui-même plutôt qu'en lui apportant des informations. Est-ce que ça, vous pouvez revoir ?
En fait, votre question ne concerne pas que le numérique.
Non, la tâche, en fait. Finalement.
Oui, ça concerne le type de tâche. C'est-à-dire qu'on peut poser la même question à propos de documents papier. Est-ce qu'un élève apprend mieux s'il doit rechercher des documents dans des livres, dans une bibliothèque ou sur un ensemble de documents papier sur la table? Est-ce qu'il apprend mieux que si on lui fournit directement les informations? Eh bien, je vais vous dire que la réponse à cette question est loin d'être simple. Et j'ai un peu tendance à lutter contre une sorte de postulat qui relève un petit peu d'illusions qu'on se fait sur, appelons ça les pédagogies actives de manière générale, le postulat que l'activité autonome de l'élève puisse constituer à tout coup un facteur positif sur les apprentissages. C'est loin d'être démontré, et on peut aussi démontrer l'inverse dans un certain nombre de situations. Il y a tout un pan de la recherche en psychologie cognitive, surtout aux États-Unis, d'ailleurs, peu en France, qui porte sur ces questions. Pour donner quelques pistes relativement simples, ça dépend notamment du niveau de compétence de l'élève dans le domaine étudié. C'est-à-dire que la recherche autonome, c'est quelque chose qui est clairement négatif pour un débutant, c'est quelque chose qui peut être positif pour un expert. Et ça se comprend assez facilement dans la mesure où l'activité de recherche elle-même suppose une compétence minimale. Et là, c'est une question qui fonctionne exactement de la même façon pour des documents papier et pour des documents numériques. C'est peut-être d'ailleurs pire pour le numérique, d'une certaine façon, dans la mesure où le document numérique peut être plus contraignant du point de vue de la recherche, hein, des dispositifs techniques ou des conséquences cognitives de la recherche. La sociologie, en particulier la sociologie française, interroge aussi sur l'articulation de cette question avec les déterminants sociaux des apprentissages. Et je pense à certains travaux des collègues de Paris 8, hein, le labo ESCOL, laboratoire de sociologie et de sciences de l'éducation, qui ont montré que les pédagogies qui impliquent de la part de l'élève une activité autonome de recherche d'informations, par exemple de résolution de problèmes, peuvent être particulièrement délétères pour les enfants qui n'ont pas à la maison ou dans leur environnement culturel de manière générale les atouts qui permettent de s'y retrouver dans la recherche d'informations. Donc le problème que vous soulevez n'est pas un problème anodin du tout si on cherche à traiter aussi les questions d'égalité des chances face à l'éducation. Le numérique, de ce point de vue, faudrait peut-être en parler aussi. Ce n'est pas mon domaine, pour le coup. Enfin, c'est quand même un petit peu plus mon domaine que la physique des ondes. Mais il n'y a pas de sociologue dans les conférences prévues. Non, ça aurait pu.
Bonsoir, je suis un vieil enseignant de 1968 et arrêté en 2006. Je suis donc à la retraite depuis 12 ans. J'ai fait une expérience en 1983 à l'époque des MO5 de chez Thomson avec les claviers.
Je connais.
Et j'ai fait des fractions là-dessus. Bien entendu, après avoir fait la leçon, je les ai amenés là-dessus. Alors, on avait le poste central, et effectivement, on avait 12 ordinateurs, donc je les mettais 2 par ordinateur. Eh bien, je peux vous dire, il y avait un aspect ludique là-dessus, et à l'époque, en 1983, c'était un peu la récompense de les amener dans la salle informatique. Et j'ai amené des classes dans cette salle, et j'avais 90% de réussite sur les fractions. Division d'une fraction par une fraction, division d'une fraction par un nombre entier, etc. Ils me faisaient ça nickel. Alors comme ils étaient par deux, forcément, il y a celui de gauche qui travaillait et celui de droite après. Hein. Voilà. Et j'avais pratiquement plus de 80% à l'interro après qui avait la moyenne. Et ça, c'était en 1983. C'était à l'époque où on avait les disquettes 5,5 là, et les disquettes souples. Voilà. Donc, ce que vous dites, ça revient effectivement à ça. Mais je faisais la leçon avant, quand même.
Voilà, mais c'est,
j'ai bien précisé.
J'attendais la fin de votre intervention pour insister là-dessus, parce que vous avez bien mentionné cet aspect des choses.
Oui, bien sûr, bien sûr.
L'outil est articulé dans votre exemple, voilà. L'outil est articulé avec une démarche didactique.
Absolument.
Penser et gérer dans le déroulé des séances. Mais dire que l'outil n'est qu'un outil, d'une certaine façon, c'est totalement trivial et il n'y a pas besoin de beaucoup de temps pour convaincre les enseignants de ça. Parfois,
à l'époque, 1983,
actuellement, actuellement, il m'est arrivé parfois de me dire qu'il en fallait un peu plus pour en convaincre les politiques sur le fait que l'outil... Bah,
c'est le Conseil général qu'ils avaient payé après, c'est oui. 05. Hein.
Oui, mais ils ne payaient pas la formation des enseignants.
Nous la faisions nous-mêmes.
Voilà.
Voilà. Merci.
Merci à vous. D'autres réactions. Donc effectivement, au sein de l'exposition, on retrouve des vieilles machines et toute une évolution. On a du mal.
Donc, bonjour. Tout à l'heure, on a abordé le projet DISAP au sein du CERCA. Et l'objectif de ce projet, c'est quand même de mettre en place un jeu pour améliorer les compétences en motricité fine, en planification, au-delà du jeu, en fait. Alors que vous avez dit que, du coup, il n'y avait pas forcément de transfert au profit d'autres tâches qui n'étaient pas exercées.
Ah. Il faudrait avoir de manière beaucoup plus précise le contexte de ce que vous évoquez. L'objectif, je parle sous ton contrôle, je connais un petit peu hein, les objectifs. L'objectif tient à une hypothèse et un certain nombre de données dont on dispose. Sur le fait qu'au moins certaines formes de dyslexie pourraient être liées à des déficits de traitement visuospatial, pour aller vite. Et donc, l'hypothèse, c'est qu'en entraînant certains processus, certaines capacités viso-spatiales, ces enfants pourraient bénéficier de capacités qui auraient des conséquences, sur les processus de lecture, en l'occurrence processus de décodage. Ça, il faudrait le relier aux capacités de traitement phonologique, de correspondance graphophonologique, etc. C'est difficile de rentrer rapidement dans les détails. Autrement dit, la piste de réponse que j'aurais... Votre interrogation est tout à fait pertinente. Hein. Je me souviens, en l'occurrence, en avoir discuté avec les responsables de la recherche. Mais... La réponse qu'on peut faire à votre interrogation, c'est qu'à ce moment-là, on ne cherche plus directement à augmenter les capacités visuo-spatiales telles qu'elles apparaissent dans un jeu. On ne cherche plus à les transférer à d'autres tâches, les mêmes capacités dans d'autres tâches. On cherche plutôt à faire en sorte que ces capacités ne soient plus un handicap par rapport à des traitements qui sont d'une autre nature. Vous voyez que le raisonnement n'est pas tout à fait le même. Vous semblez bien connaître, de toute façon, déjà. Donc, je suis un peu désolé pour le reste de l'Assemblée, mais on pourrait éventuellement en discuter après. Là, c'est un petit peu technique. Mais l'hypothèse que vous évoquez dépasse largement les questions de transfert. Ce que j'ai mis en cause, c'est la possibilité de transférer une capacité à une autre capacité. Là, ce que vous évoquez, c'est la possibilité que l'entraînement d'une capacité constitue un appui au développement d'autres capacités. C'est un raisonnement qui est tout à fait identique à celui qui est lié au débat sur le rôle du décodage dans l'apprentissage de la lecture. Pourquoi est-ce qu'il faut renforcer le décodage graphophonologique, la correspondance entre les lettres et les sons? C'est pas parce que c'est comme ça qu'on lit, si, c'est comme ça qu'on lit quelque part, mais enfin, c'est pas l'objectif de la lecture. C'est parce qu'il faut que ces processus de décodage ne gênent pas la compréhension. C'est exactement le même raisonnement que font mes collègues qui sont en charge de ce projet de recherche.
Je pense qu'il y a quelque chose sur
l'outil dystexique. Je ne pensais pas avoir des questions,
une question.
aussi techniques et aussi précises. Là,
mais merci d'y avoir répondu.
Oui, bonsoir. Moi, j'aimerais savoir si l'utilisation massive du numérique, s'il y a des études qui ont été faites sur les conséquences sur le sens critique, sur le développement du sens critique, avec l'utilisation massive du numérique.
Je n'en ai pas rencontré. Michel Serres dit que ça devrait développer le sens critique. Ouais. Hein, dans ses envolées un peu lyriques, dans Petite Poussette, c'est une des choses qu'il développe. Je pourrais botter un peu en touche en rappelant, mais je pense que c'est également Serres qui évoque ça, c'est pour ça que je m'en souviens, des écrits de Montaigne sur les conséquences de l'imprimerie, où Montaigne évoquait l'hypothèse, ou le souhait plus exactement, que l'imprimerie soit un... Non, c'est Montesquieu, pardon. C'est Montesquieu à propos des fondements de la démocratie, que l'imprimerie conduise à mieux informer le peuple et à développer le sens critique. On peut faire le même souhait pour Internet et pour le numérique en général, mais là aussi, ça sort un peu de mon domaine. Je n'ai pas rencontré d'études de ce type. Je pense que si je les avais vues, ça aurait attiré mon attention.
On a peut-être quelques éléments de réponse. Il y a des travaux qui sont faits au CERCA par Jean-François Rouet et d'autres qui sont faits de façon plus générale qui tendent à montrer qu'avec Internet, on a probablement une difficulté à repérer la source et la crédibilité de la source. Donc ça renvoie sur les fake news, entre autres. Et donc, probablement,
pour le coup,
critique.
C'est une réponse négative à votre interrogation.
Et chez les enfants, négative. Effectivement, les enfants, on montre souvent des travaux. Les enfants n'arrivent pas à repérer la source sur Internet et donc attribuent des pouvoirs de vérité à ce qui peut être dit. Alors, est-ce que c'est du sens critique chez les enfants? Je ne sais pas encore, mais il y a quelques éléments comme ça qui tendent à montrer effectivement que,
oui,
que ça peut affecter, mais là, de façon négative.
Oui, pour le coup, Thierry, j'ai le souvenir, mais c'est assez imprécis, d'une recherche que j'ai vue qui montrait l'inverse. Mais je pense que c'était lié, là aussi, à la tâche qu'avaient les élèves à résoudre à partir des informations Internet. C'est-à-dire, si l'objectif pédagogique donné par l'enseignant flèche la possibilité que les informations soient tendancieuses, erronées, etc., là, Internet favorise le repérage de la source. Donc, à nouveau, on est sur l'effet des objectifs pédagogiques et non pas l'effet de l'outil. Mais l'outil, en l'occurrence, peut être un piège si les précautions utiles ne sont pas prises. C'est intéressant de voir ce balancement. Je peux trouver des résultats contradictoires, il me semble. Ce qui montre que les enjeux sont un petit peu en dehors de l'outil lui-même.
Et dans les travaux que je cite, la tâche, justement, ne porte pas sur la source, porte bien sur un contenu.
Voilà.
Et donc, justement, en portant sur le contenu, l'attention n'est pas portée sur la source. Alors que je pense que, justement, dans des travaux qui portent sur la source, là, on pourrait avoir l'effet positif. Mais dans des tâches de lecture, on demande de rechercher une information. Très souvent, sur Internet, on oublie de regarder la source, autant qu'on le devrait.
Ce qui revient à dire, toujours sur mes propos, c'est des questions de didactique, ce qui revient à dire quand même que l'outil n'est pas neutre, en l'occurrence, par rapport au choix didactique. Il n'induit pas de manière impérative des activités cognitives qui soient positives ou négatives, mais il n'est pas neutre, c'est-à-dire qu'il induit des contraintes que la démarche didactique doit prendre en compte.
Ah mais deux questions. Je vais d'abord au fond, je reviens vers vous après.
Bonsoir. Donc, vous avez bien clarifié cette question de tâches et d'outils. Qu'en est-il des ce qu'on appelle maintenant enfin, les serious games? Finalement, est-ce que c'est une tâche? C'est une avec les outils numériques, même si on copie un petit peu les jeux vidéo, mais l'objectif c'est bien de développer un raisonnement, etc. Ça, c'est une première question. Et en même temps, on a de plus en plus un discours, en tout cas dans le monde de l'éducation nationale, où on considère que la maîtrise basique du langage informatique doit être développée, y compris dans les collèges, voire peut-être même un peu plus bas dans les classes. Alors là aussi, par rapport à l'outil, est-ce que c'est une tâche, l'apprentissage d'un raisonnement avec d'autres codes ou d'autres notre langage comme une langue étrangère et qui n'a rien à voir avec la bibliothèque, on peut appeler ça la bibliothèque des savoirs, des contenus accessibles par l'outil numérique et là qui suppose après à différents niveaux une capacité critique et d'utilisation de l'information disponible. À la limite, bon, l'apprentissage d'un langage informatique, même basique, ça relèverait comme du même domaine que l'apprentissage d'un logiciel qu'on utiliserait sur une machine pour traiter un problème en gagnant du temps éventuellement ou en utilisant d'autres manières de faire.
La seconde question est plus facile que la première. Peut-être qu'entre-temps, vous aurez oublié la première. On peut sans doute imaginer plusieurs objectifs potentiels dans l'enseignement du code informatique, voir ce que c'est qu'un raisonnement, l'analyse d'une tâche, etc. Je pense que l'enjeu, ce qui rejoint en fait votre question sur l'esprit critique, l'enjeu c'est aussi d'amener à comprendre ce qu'il y a derrière les images d'un smartphone ou d'un écran. Un jeu vidéo ou une appli d'entraînement cognitif, enfin toute appli sur un smartphone, il y a derrière tout un travail de conception, hein, c'est pas quelque chose de magique, ce sont des humains qui ont construit ça. Travailler un petit peu à la construction même simple d'un outil comme ça, c'est une façon de prendre du recul par rapport à ces images, de concevoir qu'elles ne sont pas neutres, qu'elles ont été construites par quelqu'un qui a peut-être ses propres objectifs, donc éventuellement repérer des choix faits par le constructeur, par le vendeur. C'est sans doute, je ne sais pas si les responsables de l'éducation nationale ont ça en tête, mais j'espère, c'est sans doute une manière aussi de construire l'esprit critique. La première question sur les serious games, sincèrement, moi je ne connais pas suffisamment, je ne connais pas suffisamment de recherche. Si j'ai bien compris le principe, c'est quelque chose qui est supposé se présenter comme un jeu, mais qui a des réels objectifs d'apprentissage. Apprendre en jouant, moi j'ai rien contre, hein, pourquoi pas. A priori, si je raisonne sur les conséquences en termes de fonctionnement cognitif, c'est-à-dire en référence aux recherches que j'ai évoquées là, ça doit être la même chose. Mais je n'ai, dans ce que j'ai lu là, je n'ai pas rencontré de travaux qui portent de manière spécifique.
sur les serious guns. Donc je ne peux pas, sous cet angle-là, répondre de manière précise. Mais finalement, votre question m'amène à m'interroger. Est-ce que c'est moi qui ai fait un tri qui m'a amené à ne pas voir de recherche de ce type, ou est-ce que réellement il n'en existe pas? Je pense que je l'aurais vu quand même. C'est-à-dire, je n'ai pas l'impression qu'il y ait des chercheurs dans ce domaine qui se soient intéressés de manière spécifique aux conséquences en termes de fonctionnement cognitif de cette pratique. C'est tout ce que je peux dire là.
J'avais demandé la parole simplement pour signaler, suite à la demande sur l'esprit critique et le numérique, qu'il existe actuellement sur le site de la revue Sciences Humaines un article qui traite justement de ça. L'esprit critique à l'heure du... l'éducation à l'esprit critique par Internet. Et tout au début de votre présentation, vous avez parlé de l'émergence des langues et des alphabets en fonction de la structuration cérébrale. Alors, ça n'a sans doute pas grand-chose à voir avec le sujet du numérique, mais je réfléchissais aux travaux ou aux écrits de Heinz Wissmann sur « Penser entre les langues ». Est-ce que là, il y a quelque chose où il explique finalement que la pensée induit les mots, mais que les mots d'une langue contraignent les concepts manipulables dans cette langue. Si vous pouviez nous en dire un peu plus.
Mais je dirais ce que vous venez de dire, parce que ça me paraît tout à fait pertinent. L'idée, et ça correspond à des travaux déjà anciens en linguistique ou en philosophie du langage, l'idée c'est bien qu'il y a une interaction, ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire que les langues peuvent être le reflet de certaines formes de pensée ou d'une culture, et à l'inverse, les caractéristiques des langues induisent des modes de raisonnement, des modes de pensée ou des vécus qui sont caractéristiques. Et vous pouvez tout à fait faire l'analogie. Alors, effectivement, c'est un peu lointain, mais quand même avec ce que dit Stanislas Dehaene des caractéristiques des alphabets. Pour le coup, ça peut me conduire aussi à imaginer des recherches, mais là aussi je n'en ai pas rencontré. On est quand même sur des objets de recherche qui sont très récents, hein. C'est pas en quelques dizaines d'années que tout se transforme comme ça, qu'on pourrait aussi travailler de manière beaucoup plus large sur les effets de l'outil numérique sur les modes de raisonnement et pas seulement sur la mémoire, sur la perception, sur l'attention. Là aussi, je n'ai rien vu encore qui permette de détailler quelque chose dans ce domaine, mais l'analogie avec le langage me paraît tout à fait pertinente, oui.
Merci. Dernière question, allez.
Merci beaucoup pour votre présentation et pour la nuance de vos propos. C'est une qualité que j'apprécie beaucoup et qui a tendance à se perdre parfois dans le milieu scientifique. Donc, merci beaucoup pour ça. J'avais juste une question pratique au niveau du fonctionnement du labo. Vous disiez que vous testiez un outil pour les enfants dyslexiques. Donc on est quelques médecins de l'éducation nationale ici. Donc c'est un sujet qui nous intéresse, et juste pour savoir comment vous validiez cet outil, est-ce que vous le passiez cet outil à des enfants, comment vous les sélectionnez, voilà, une question très pratique.
À ma connaissance, la recherche vient de débuter, c'est ça?
Hein?
Ah, déjà? tu as une réponse à...
Je crois que la doctorante qui est en charge du projet DISAP fera une conférence ici, spécialement sur DISAP.
et je préfère la laisser parler.
Vous allez être obligé de revenir.
Non, globalement, c'est une expérimentation à grande échelle dans des dizaines d'écoles de la région. Ah, merci. Oui. Alors, elles sont peut-être que vous êtes impliqué dans le projet d'ISAP. Donc voilà. Mais il y a des dizaines d'écoles qui sont impliquées sur toute la région. C'est une très très grosse recherche et qui se fait dans les écoles.
Voilà, 23 octobre à 14h30 et c'est un mercredi après-midi. Voilà. Donc nos rendez-vous sont en soirée, en après-midi, mercredi, samedi.
Il n'y a pas de médecin d'éducation nationale impliqué dans la recherche. Mais j'ai cru comprendre que les médecins de l'éducation nationale étaient déjà tellement surbookés que.
Ils sont encore là.
Mais vous pouvez contacter mon collègue directement, Eric Lambert, et n'hésitez pas.
Voilà. Donc, merci beaucoup encore, Monsieur Gawenac, pour ces présentations de travaux de recherche. Et puis, merci aussi au public pour ces nombreuses questions. Et je vous dis à très bientôt. Bonne fin de soirée. Au revoir.